Marc, d'ordinaire si sobre dans son écriture, je l'ai maintes fois signalé, nous donne dans le texte que nous venons d'entendre deux séries de détails répétitifs, un peu inutiles, mais pleins de sens, bien sûr, puisqu'il le fait. D'abord, il y a une série de répétitions. Le sabbat terminé, de grand matin, le premier jour de la semaine, au lever du soleil, elles se rendent au tombeau. Contraste saisissant de trois femmes, courbées par le deuil, affairées par la mort et son rituel, alors que Marc, par deux fois, nous dit que le jour est là, de grand matin, au lever du soleil. Et par deux fois encore, il nous dit qu'un nouveau temps commence. Le sabbat est terminé. C'est le premier jour. Comment mieux dire que malgré les épreuves de la mort du Christ, de l'abandon des disciples, de l'échec apparent de la prédication, la lumière a déjà triomphé. Elles se rendent au tombeau, occupées encore du drame de l'avant-veille, alors que le sabbat est bel et bien terminé. Le jour est déjà levé. Elles sont encore dans la nuit, ignorant qu'elles vont vers la lumière. Peut-être en est-il de même dans nos vies, affairées par les échecs de l'avant-veille, soucieux de nous accrocher à un monde ancien qui craque dans les douleurs du changement. Décidément trop occupé par les soins apportés à un cadavre. L'aurore est déjà levée. Nous ne le savons pas encore, mais nous y allons. Frères et sœurs, nous y allons. Ou peut-être sommes-nous tout simplement inquiétés par la mort, qui ne le serait pas. Blessés peut-être aussi par le départ de nos proches. Interrogatif. Tout cela a-t-il, au fond, un sens ? Peut-être sommes-nous inquiétés de trouver en ce monde décidément plus d'ombre que de lumière. Peut-être sommes-nous empêtrés dans l'obscurité, ou pire, dans l'absurde, ne voyant pas poindre le jour. Mais le Christ a vaincu la mort, le jour est levé, et nous en sommes, frères et sœurs, nous en sommes. L'annonce de Pâques est aussi simple que ça. La lumière est déjà là, et nous en sommes. Une autre série de trois détails dans le récit de Marc, où vous avez entendu il y a un instant, en entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Un ange, probablement, comme disent les autres évangélistes, puisqu'elles sont saisies de crainte. Mais Marc préfère dire un jeune homme vêtu de blanc, assis à droite. Encore une fois, je vous le dis, quand Marc donne des détails, c'est toujours plein de signification. Marc préfère dire ça. Parce qu'un jeune homme vêtu de blanc, c'est le signe du renouveau. Le monde ancien s'en est allé, un nouveau monde est déjà né. Il est vêtu de blanc. Probablement est-ce une allusion aux vêtements de joie, vêtements de lumière, vêtements baptismales, vêtements de la transfiguration, de celui qui est tout entier habillé déjà du jour nouveau, habillé de lumière, habité de lumière, habité par la présence de Dieu. Marc précise aussi que ce jeune homme est assis à la droite. Détail, mais détail intéressant. Surprenant, mais intéressant. Être assis à la droite, en effet, dans l'Ancien Testament, et même d'ailleurs dans notre civilisation jusqu'à il n'y a pas si longtemps, être assis à la droite, c'était une place d'honneur. À côté, généralement, du premier personnage. On est assis à la droite du maître de maison. Et on nous dit que ce jeune homme est assis à la droite. Fort bien. Mais à la droite de qui ? Où est le maître qui confère l'honneur d'être assis à sa droite ? Il faut bien le dire, il est assis à la droite de rien. Enfin, pas tout à fait. Il est assis à droite de l'endroit où reposait le mort, mais la mort n'y est pas. Ce vide laissé veut dire en fait deux choses. En premier lieu, ça veut dire que la mort est vaincue. L'ange n'est pas assis à la droite de rien. Il est assis à la droite de ce qui est le signe de la vie. La mort est absente, abolie, vaincue. Et c'est en effet une place d'honneur que d'annoncer ça. C'est la place que nous devons prendre. En second lieu, ce vide laissé signifie une autre façon pour le Christ d'être présent en ce monde. L'ange le dit. L'ange dit la nouvelle manière pour le Christ d'être présent. Vous cherchez Jésus parmi les morts, dans les souvenirs ou les regrets, les attraits du vieux monde. Il n'est pas là. Il vous précède en Galilée. Or, la Galilée, c'est la terre des nations, nous dit l'Évangile. C'est la terre où tous les peuples se mêlent, juifs et païens, purs et impurs. C'est là que le Christ nous précède, nous dit ce jeune homme plein de lumière. C'est là que le Christ nous précède en nos frères. Le Christ est déjà présent, semé au cœur de tout être, nos frères. Il nous faut les éveiller à cette présence. L'ange dit, il vous précède. Vous y êtes attendu. Dans le cœur de vos frères, vous êtes attendu. Cette lumière que vous avez reçue, il faut premièrement la transmettre, deuxièmement la reconnaître. À moins que ce ne soit le contraire. Premièrement la reconnaître en vos frères, deuxièmement la transmettre. L'ange dit, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Dans l'acte de parler du Christ, dans l'acte de chercher la présence du Christ en nos frères, dans cet acte-là, nous transmettons la lumière et nous la recevons. L'annonce de Pâques, la voici. La mort n'est pas le dernier mot de toute chose. La vie n'est pas absurde. La vie est destinée. Notre destinée, le destin de notre existence, c'est d'entrer dans la lumière qu'est Dieu. C'est d'être rempli de cette lumière qui veut habiter en nous et qui y habite déjà. La lumière du ressuscité. Ou bien sûr, il n'y a rien de tonitruant dans la résurrection. Rien d'évident, rien de spectaculaire, mais tout a changé. Et voici en effet la bonne nouvelle de cette nuit de Pâques. L'aurore est déjà là. C'est le premier jour d'un temps nouveau, non plus clos sur les soucis de l'avant-veille, non plus clos sur l'absurdité, le non-sens, la souffrance, le deuil, mais ouvert sur l'Éternel qui déjà diffuse sa clarté en nos vies.